Merci Alice. C'est le tour de notre collègue de Toulouse, ou bien je n'ai pas très bien compris où se trouve l'école où il enseigne. De toute façon, c'est une école tout à fait nouvelle du point de vue des techniques employées. Il s'agit d'une école associative immersive en langue occitane. Notre collègue Gauthier Drouin a un parcours professionnel très intéressant. En tant qu'enseignant d'allemand, il a enseigné à l'étranger dans différents pays du Nord, au Danemark et en Finlande. Pour passer ensuite en France où il a fait l'apprentissage de l'occitan pour devenir à son tour, après l'apprentissage, enseignant dans une école Calandretta d'immersion en langue occitane. Il va nous présenter son expérience. Merci.
Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, je suis très heureux de participer à ces assises du plurilinguisme et de vous parler donc de ce type d'école que l'on appelle donc calandrette. Donc, je vais d'abord vous définir ce qu'est une calandrette, ensuite vous parler de la langue occitane, des différentes variantes dialectales qui existent en occitan et ensuite de mon expérience au sein de cette école. Donc, je vais d'abord vous définir ce que c'est une calandrette, puis vous parler de l'occitan. Donc la calandrette, donc l'objectif de la calandrette est de transmettre la langue et la culture occitane aux enfants tout en assurant une scolarité efficace. L'enseignement est basé sur le principe de l'immersion. Toutes les activités se vivent en occitan et à partir du CE1, le français est introduit. Les contenus des enseignements sont fixés par les instructions officielles de l'éducation nationale française. Voilà. En deuxième point, donc la calandrette utilise la méthode de l'immersion pour valoriser et développer les capacités des enfants à entrer dans une seconde langue d'une manière équivalente à la première. L'immersion permet une acquisition naturelle de la langue occitane dans le respect de la langue française. Et à partir de la petite section, donc chez les tout-petits, à partir de 3 ans, les enfants sont sensibilisés à la diversité linguistique, la musique des langues, et en primaire, en première année, donc à 6 ans, nous développons ce que l'on appelle les familles de langues pour une étude plus approfondie des correspondances entre les langues et la communication directe avec des locuteurs natifs reste l'outil pour familiariser les enfants à une vraie empathie face aux autres langues. Le projet linguistique a été associé à une pédagogie active qui place l'enfant au sein même de ses apprentissages. Cette pédagogie active est une pédagogie institutionnelle d'inspiration Freinet. Et donc à Calandrette, on utilise quelques institutions comme les familles de langues. L'école est co-dirigée par l'État et par une association où les parents accompagnent le développement de l'école et s'associent aux enseignants, que l'on appelle chez nous Regents, pour mener les projets de l'école. Je vais vous parler de quelques dates historiques sans entrer dans les détails. En premier, donc en 1979, la création de la première école Calandrette à Pau, qui a été créée par des Béarnais, Cap et Toute, qui voulaient que les enfants apprennent dans la langue du pays, quand je dis pays, ce qui signifie l'endroit où est parlée la langue occitane, les enfants donc, en s'inspirant donc des Ikastola qui se trouvent dans le Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. La même année a ouvert une calandrette à un autre endroit donc, du sud de la France, à Béziers, et le mouvement calandrette était né. En 1994, il y a eu la signature du protocole d'accord avec l'éducation nationale pour être reconnue école sous contrat. En 1997, l'ouverture du premier collège à Montpellier. Et au bout de 20 ans d'existence, Calandrette a prolongé cet enseignement au secondaire, donc au collège et au lycée, afin que les élèves aient la possibilité de choisir de continuer l'enseignement immersif selon les principes pédagogiques appliqués à Calandrette. En 2005, il y a eu l'ouverture du collège de Gascogne à Pau. Et en 2013, ouverture du collège Calandrette d'El País Toutsaint à Toulouse. Et cette année, en 2019, nous fêtons les 40 ans d'existence du mouvement Calandrette. Et il y aura un congrès qui aura lieu dans le sud de la France aussi, à Quillan. Donc aujourd'hui, il existe 68 établissements dans le sud de la France, 65 écoles maternelles et primaires, 3 collèges et un lycée qui est à Montpellier. Je vais vous parler maintenant de l'occitan. Donc l'occitan, il n'existe pas une dénomination unique pour définir la langue occitane. Cette langue peut être appelée donc occitan, patois, langue régionale, dialecte, et j'en passe. Donc le manque d'uniformisation de la langue et de sa dénomination peut être un problème pour celles et ceux qui la parlent et pour son propre statut en tant que langue de communication au sein de l'État français. L'occitan n'a pas bien sûr le statut de langue officielle d'un État dont le français jouit au moins depuis Villers-Cotterêts, donc de 1539. Le statut n'est proclamé que depuis 1992 avec l'article 2 de la Constitution qui commence désormais par la formule « La langue de la République est le français ». L'ajout plus récent encore à la Constitution d'une mention des langues régionales non nommées individuellement et sans que soit défini de droit corrélatif à cette reconnaissance comme appartement au patrimoine de la France entérine la disparité essentielle entre une langue nommée et consubstantielle à l'État et sa forme républicaine, et une foule indéterminée d'autres qui sont rangées sur les étagères du patrimoine. Le territoire linguistique donc occitan s'étend sur 33 départements français et représente une des parties linguistiques les plus grandes en Europe. Cette aire linguistique se situe majoritairement donc, en France, telle que vous le voyez là, sur un tiers du territoire français. Deux départements se partagent, entre autres, deux autres langues régionales, donc, qui sont le Pyrénées-Atlantique, avec le basque, et les départements des Pyrénées-Orientales avec le catalan. Il faut compter également 14 vallées occitanes dans les Alpes piémontaises et Guardia Piemontese en Italie, et donc dans la Val d'Aran en Espagne, où vous voyez les flèches. Sur le territoire français, donc 33 départements, comme je le disais précédemment, appartiennent à l'aire linguistique occitane. Nous pouvons considérer donc ce territoire entre les deux mers, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, et entre les deux montagnes, les Pyrénées et les Alpes. Il existe une grande variété dialectale au sein de l'aire linguistique occitane. Voici les différentes variantes. Donc vous avez le gascon, le languedocien, le limousin, l'auvergnat, le vivarois alpin et le provençal. Qui parle occitan? Les personnes. Alors, donc je vous ai fait un petit. Non, voilà, je vous ai mis donc qui parle occitan actuellement. Donc les personnes âgées majoritairement, les enseignants et les régents, donc en l'occurrence moi, les universitaires, les acteurs de la vie occitane et les élèves donc, du bilingue et les calendroux. Il n'existe pas de données statistiques valables à l'échelle nationale qui permettent réellement de connaître les compétences des Français en occitan, celles-ci pouvant aller d'une simple compréhension passive à un usage solide, tant à l'oral qu'à l'écrit. Et quant au nombre de locuteurs, les diverses estimations avancent des chiffres qui oscillent entre quelques centaines de milliers de personnes et plusieurs millions. Bon, là, je reste un peu prudent. Il est certain, en revanche, qu'il n'existe plus en France un seul locuteur monolingue et que l'occitan n'est sans doute pratiquement plus la langue première en famille. La population de locuteurs qui a hérité de la langue par transmission familiale est en voie d'extinction, dans la mesure où, même en milieu rural, la cellule familiale n'est plus depuis longtemps un lieu de transmission de l'occitan. Donc pourquoi parler occitan aujourd'hui? Donc est bilingue, chaque sujet humain capable d'entrer et de s'exprimer oralement et à l'écrit dans deux langues, et cela dans toutes les situations de la vie privée, professionnelle et sociale. Depuis de nombreuses années, un consensus s'est établi dans la recherche psycholinguistique à propos de certains points essentiels. Non seulement un bilinguisme bien mené n'est aucunement nocif pour l'enfant, mais il constitue au contraire un facteur de développement de l'intelligence dans les domaines aussi essentiels que la pensée abstraite et symbolique, apprentissage des mathématiques par exemple. Donc Jean Petit cite « Au niveau purement linguistique, l'enfant bilingue propose des prestations sensiblement supérieures à ceux qui sont monolingues et ses prestations dans les deux langues. Plus l'enfant est jeune, plus l'acquisition est facile. C'est un constat expérimental que nous pouvons vérifier. » chaque jour avec les enfants des familles d'immigrés, et le cerveau de l'enfant le prédispose à acquérir, par imitation et par reproduction active, chaque langue parlée dans son entourage. Il apprend aussi facilement que s'il apprenait sa langue maternelle inconsciemment et selon son QI. En un mot, chaque enfant est capable d'apprendre sa langue maternelle et est capable d'en apprendre d'autres. La stratégie universelle et innée qui se met en œuvre par cette acquisition simplifie la langue pour pouvoir mieux l'assimiler. S'il fait des erreurs, l'enfant saura se corriger automatiquement et naturellement. Alors, je passe un peu rapidement. Donc, si nous attendons qu'un enfant ait 6 ou 7 ans pour lui faire commencer l'apprentissage d'une seconde langue, nous lui faisons perdre un temps précieux. Voilà. Donc, je passe aux réalités de l'expérience à la calendrette d'Agen. Je vais passer assez rapidement. Donc, les passerelles entre le français et l'occitan sont mises en évidence très tôt. Après la période d'immersion pure du cycle 1, le chantier qui s'offre aux enseignants de calendrette est l'approche de la lecture en occitan et en français. Donc le bilinguisme, un outil pour bâtir la notion de l'arbitraire du signe. Donc des exemples, je vous donne par exemple une petite fille donc, qui s'appelle May, donc, qui a 4 ans, donc, qui parlant du transat en français, a traduit tout naturellement transat, utilisant ici ce que le professeur Petit appelle une approximation optimisante et développant une attitude de recherche de règles par la comparaison au standard et le jeu des essais-erreurs. Et un autre exemple avec le V initial qui se prononce en occitan B, donc vilain, elle a voulu dire bilan. Evelyne Charmeux donc, affirme que le seul moyen de savoir une langue, c'est d'en savoir une autre. Plus on fait de l'occitan et plus on est fort en français. Alors, je vais passer un peu après les passerelles. Donc, moteur de recherche pour les langues vivantes. Interdialectales, pardon, en premier. Donc, on a donc, les passerelles implicites issues de la confrontation des deux systèmes linguistiques sont donc un grand pas vers le métalangage, une des étapes les plus complexes des apprentissages linguistiques. Donc, l'interdialectalité est un outil supplémentaire que possède la langue occitane pour l'acquisition de la notion de palancos, donc des ponts. Les palancos se définissent ici comme un ensemble de moyens pour passer d'une langue à une autre ou d'une variante dialectale à une autre. Ici, vous avez un exemple entre, à gauche, le dialecte languedocien et à droite, le dialecte gascon. Et je passe ensuite au palancos latino, ce sera mon dernier point. Je vais passer vite sur celle-ci. Voilà. Donc nous avons mené une autre expérience avec une comptine appartenant à la même famille de langues que l'occitan. En l'occurrence, donc, j'ai pris le roumain comme exemple, avec donc, Frère Jaume, donc Frère Jacques. Donc, les petits ne savaient pas du tout de quelle langue il s'agissait, mais ils savaient parfaitement faire correspondre les deux langues, avec Frère Jacob, Frère Jaume, par exemple. Donc, les palancos entre les langues romanes et l'intercompréhension sont donc un pas supplémentaire qui construit le métalangage et permet de pénétrer non plus frontalement, mais en revivant des situations, analogies et acquis, déjà là, dans notre bilinguisme et dans la connaissance de nos langues. Et comme disait Goethe, « La fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. » Et puis, « Mulțumesc pentru atenția acordată. »
Nous aussi, nous vous remercions, mais je prierai les intervenants de penser qu'il y a des interprètes qui devrait avoir le temps de traduire ce que vous dites. Donc, c'est vrai que vous voulez dire beaucoup de choses, mais dans peu de temps, il serait peut-être mieux de choisir les informations, parce que ça pose un problème pour ceux qui ont des casques, et peut-être qu'il y a quand même certains problèmes. Merci.